Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grand Amour, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, jusqu'où pousser la préférence nationale? Touche pas à mes quotas, c'est le titre d'un appel lancé il y a quelques jours par la SACEM dans le journal du dimanche et signé par des centaines d'artistes. Raison de cet appel, une inquiétude face à une hypothétique réduction du pourcentage obligatoire de chansons d'expression française à la radio. Les Goldman, Biolay, Aznavour et autres Cabrel, pour n'en citer que quelques-uns, auront sans doute été surpris d'apprendre qu'en signant ce texte, ils fréquentaient les mêmes plates-bandes que le Front National. Car le FN s'est en effet réjoui de cette mobilisation. Ainsi, Marion Maréchal Le Pen, qui libellait ainsi un message sur son compte Twitter le 15 juin dernier, « Bravo à tous nos artistes français qui se mobilisent pour la préférence nationale ». Alors la préférence nationale, voilà un projet qui distingue assez clairement le Front National des autres partis politiques représentés dans les assemblées. La formation dirigée par Marine Le Pen entend l'appliquer dans les domaines de l'emploi, du logement et des aides sociales, quitte à aller contre l'universalité des droits fondamentaux, universalité inscrite dans la Constitution. Cela dit, cette universalité paraît déjà mal en point, à en juger par les conclusions rendues le mois dernier par le défenseur des droits dans son rapport intitulé « Les droits fondamentaux des étrangers en France ». D'où il ressort que les discriminations à l'égard de ces derniers s'est banalisée, qu'une préférence nationale qui ne dit pas son nom est déjà en place. Alors, jusqu'où pousser la préférence nationale? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, trois invités, à commencer par vous, Nicolas Bay, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le secrétaire général du Front National, député européen. Vous siégez au Parlement européen au sein du groupe Europe des Nations et des Libertés. Pour discuter avec vous, Serge Slama, bonsoir.
Bonsoir.
Maître de conférence en droit public à l'Université Paris-Ouest Nanterre. Vous êtes spécialiste des questions d'immigration et du statut des étrangers en France. Et vous animez un blog hébergé par le journal Le Monde, Combat pour les droits de l'homme. Et puis notre troisième invité est écrivain et historien. Il s'agit de Saber Mansouri. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez notamment travaillé comme historien sur la notion d'étranger en France. Vous êtes également intéressé à la Grèce, la Grèce antique plutôt d'ailleurs. Vous étiez venu en 2011, c'est-à-dire il y a 5 ans, pour un récit que vous aviez publié aux éditions Talendier, dans lequel vous racontiez à votre manière votre parcours et qui s'intitulait « Tu deviendras un Français ». Accompli. Alors ce soir, donc, nous allons débattre, discuter de cette notion de préférence nationale. Je le disais, Nicolas Bay, c'est une notion qui identifie politiquement assez bien le parti que vous représentez. Cela dit, j'ai été un petit peu surpris, parce que alors, j'ai regardé sur le site du FN, non pas le projet dans son intégralité, mais l'essentiel du projet tel qu'il est présenté par Marine Le Pen. Je n'ai pas trouvé ce terme de préférence nationale, mais plutôt, il est écrit que vous souhaitez instaurer la priorité nationale pour l'emploi, le logement et les aides sociales. Est-ce que la priorité nationale, plutôt que la préférence nationale, c'est quelque chose qui veut dire autre chose ou c'est la même chose pour vous?
Non, je crois que c'est la même idée. Le terme de priorité, je pense, est un critère objectif. Peut-être que la préférence avait comme terme est peut-être un peu plus ambigu, puisqu'il donnerait le sentiment que c'est sur des critères qui ne seraient pas parfaitement objectifs. La priorité nationale, c'est-à-dire l'avantage que peut avoir un national, c'est-à-dire un citoyen français par rapport à un autre. Je crois d'ailleurs que cette notion de préférence, de priorité nationale, en réalité, elle est totalement inhérente à la notion même de nationalité. Parce que s'il y a une nationalité française, si tout le monde ne peut pas avoir la nationalité française, même si moi je regrette qu'elle soit aujourd'hui un petit peu distribuée comme des petits pains, eh bien c'est précisément parce qu'elle confère un certain nombre de droits et un certain nombre de devoirs. Et par conséquent, il est normal que celui qui est national d'un pays, en l'occurrence la France, qui a la nationalité française, eh bien, il puisse jouer à un certain nombre de droits.
Mais d'ailleurs, Les droits qu'ont les Français ne sont pas exactement les mêmes que ceux qu'ont les étrangers. Mais je voudrais juste rester pour faire un premier tour de table sur cette notion, cette différenciation finalement entre préférence ou priorité nationale. Est-ce que pour vous, par exemple, Serge Slama, c'est une notion, disons, alors plus neutre aussi, celle de priorité que celle de préférence?
La préférence nationale est une notion connotée politiquement à cause du Front National, très clairement. La priorité nationale existe déjà d'une certaine façon depuis assez longtemps, depuis une loi de 1932. Après, tout dépend ce que vous mettez dedans. C'est-à-dire, si la préférence nationale, la priorité nationale, c'est de réserver certains droits et emplois uniquement aux nationaux, par exclusion des ressortissants européens et des autres ressortissants de pays tiers, c'est clairement problématique et contraire à la Constitution française, à l'ensemble des conventions internationales auxquelles on est parti. Là, il n'y a absolument aucun doute. Je crois que vous avez une formation de juriste et vous le savez pertinemment. En revanche, si c'est déplacer la frontière, c'est-à-dire exclure certaines catégories d'étrangers, comme par exemple les sans-papiers pour certains droits, pas pour tous, mais pour un certain nombre de droits, ou les étrangers qui ont un titre de séjour pendant une certaine durée, là, un certain nombre de décisions, à la fois du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État ou de la Cour européenne des droits de l'homme, ont reconnu que c'était possible. Donc soit vous voulez faire quelque chose qui existe déjà, donc je ne vois pas très bien l'intérêt, soit vous voulez faire des choses qui sont inconstitutionnelles alors que vous prétendez républicain.
Alors, vous allez avoir alors, l'occasion de répondre évidemment Nicolas Bay, mais je voudrais juste poursuivre mon premier tour de table avec vous, Saber Mansouri.
Oui, pour répondre à la question, moi j'ai tendance à la retenir, l'immobiliser, voire la valider complètement, cette notion de préférence nationale.
C'est-à-dire plutôt que de dire jusqu'où pousser la préférence nationale, vous vous dites quoi ? Jusqu'où la limiter ?
Je la retiens, je l'invalide tout simplement, je vais vous dire pourquoi. Parce que je reconnais que c'est une formule assez séduisante en temps électoral, puisqu'elle peut drainer des voix, puisqu'elle peut faire gagner des voix, elle peut aussi faire gagner des points dans les sondages, mais j'ai l'impression qu'elle évacue d'un revers de main, qu'elle fait le vide autour d'elle et cache certaines vérités qui me semblent utiles de rappeler ici.
Et quelles, par exemple ?
À savoir que l'État, la République, sont des notions, des réalités, des vérités historiques, philosophiques, politiques, qui sont bâties sur deux notions, deux concepts assez solides, à savoir le citoyen et l'étranger. Le citoyen et le non-citoyen. Donc moi, pour ma part, je préfère parler de citoyen et non-citoyen, et non pas de national et non-national, parce que, à regarder de très près, fondamentalement, cette discrimination existe, parce que le citoyen a plus de droits que l'étranger, parce que le citoyen vote, parce que le citoyen peut être élu. D'ailleurs, vous-même, vous êtes élu député européen. Et c'est aussi le citoyen qui exerce cette souveraineté politique. Et par conséquent, c'est lui qui discrimine, entre guillemets, c'est lui qui fait la loi. Et c'est lui qui, par sa citoyenneté, ses droits et ses devoirs, met en place cette frontière, justement, infranchissable entre les citoyens et les non-citoyens.
Alors justement, peut-être déjà sur cette question d'un constat d'une discrimination qui existe déjà entre nationaux, entre citoyens, comme vous le dites, Saber Mansouri, et étrangers. Finalement, ce que vous appelez de vos voeux, Nicolas Bay, est-ce que ça n'existe pas déjà assez largement dans un certain nombre de domaines ?
Non, je crois qu'il faut bien préciser les choses. Moi, je suis républicain, je suis attaché aux valeurs de la République. La République, c'est la République française. C'est pas la République de façon théorique, comme une espèce de concept désincarné. C'est de la République française dont on parle, avec ses spécificités, avec l'histoire de la France, avec le territoire de la France, avec les citoyens français qui sont dessus, et qui y vivent. Et évidemment, pour nous, la nationalité française, c'est-à-dire la citoyenneté française, eh bien, elle s'hérite ou elle se mérite. Et nous regrettons d'ailleurs qu'ait instauré le droit du sol, évidemment, qui permet à n'importe qui n'est même par hasard
sur le territoire
français.
Vous savez depuis quand le droit du sol existe ?
Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Lui permet d'avoir la nationalité française. Mais un point important. Non seulement ce qui existe dans certains domaines, c'est la priorité nationale, mais c'est surtout l'exclusivité nationale. Le droit de vote, par exemple, il est attaché à la citoyenneté française. Il y a un certain nombre de professions réglementées.
Ou européennes dans certaines élections.
Oui, effectivement, et dans certains cas, pour les ressortissants des autres pays de la communauté de l'Union européenne. Mais la priorité nationale, elle existe donc bel et bien. Ce que nous voulons appliquer, comme vous l'avez rappelé en préambule, c'est la priorité nationale à l'emploi, aux aides sociales et au logement. Il ne s'agit pas, là en l'occurrence, d'imposer l'exclusivité nationale. Il s'agit simplement de constater qu'en France, il y a 6 millions de chômeurs réels. Il y a entre 9 et 10 millions de pauvres. Il y a environ 3 500 000 mal logés et que dans ces conditions-là, il nous apparaît normal que ce soit les Français d'abord qui bénéficient de ces aides sociales, de ces logements et de ces emplois. Voilà. Par ordre de priorité, il ne s'agit pas d'exclure ceux qui seraient étrangers, à condition évidemment qu'ils soient en situation régulière, mais simplement de faire en sorte que les Français soient prioritaires. Mais par exemple, pour l'accès à la fonction publique, la priorité et même l'exclusivité nationale est en vigueur. Donc c'est évidemment tout sauf un concept qui est anti-républicain. C'est un concept qui est parfaitement intégré à la République française. Reste à définir à quoi on l'applique. Et à quoi on l'applique, c'est la communauté nationale qui doit le décider. C'est la représentation nationale qui doit le décider dans le cadre de la loi. Et vouloir, porter un jugement moral sur cette notion de priorité nationale me paraît être totalement absurde et relever d'une forme de militantisme politique très outrancier et qui n'a rien à voir avec le droit.
Alors écoutons peut-être justement un petit peu d'autres avis, si vous voulez bien, Nicolas Bay. Je fais juste une petite incise par rapport à la fonction publique. Là aussi, il y a quelques exceptions, notamment pour les médecins. Quelques exceptions. Il y a certain nombre d'exceptions qui permettent à des étrangers d'occuper des postes de la fonction publique. Mais Serge Lama, en fait, je voudrais vous poser la question peut-être de manière un petit peu différente. C'est-à-dire que à partir du moment où on considère peut-être comme logique finalement que les étrangers n'aient pas les mêmes droits électoraux par exemple que les Français, ou bien qu'ils ne puissent pas accéder à tous les postes de la fonction publique, même s'il y a, comme je le disais, des exceptions par rapport aux Français, est-ce qu'on n'est pas dans la même logique quand un parti comme le Front National dit, nous, on veut aussi appliquer cette préférence nationale aux droits sociaux et aux logements notamment? Ou bien c'est une logique totalement différente pour vous?
Absolument pas. J'ai consacré ma thèse à ce sujet sur le privilège national. Donc c'est une question que je connais bien. C'est assez simple. Il faut définir ce qui est légitime, quels sont les droits légitimes du citoyen. C'est quoi la citoyenneté? C'est exercer la souveraineté nationale, c'est-à-dire avoir un certain nombre de droits régaliens. Quels sont les droits régaliens? C'est par exemple la fonction publique régalienne, c'est par exemple le droit de vote, c'est par exemple pouvoir être juré, et ça personne ne remet en cause. Et vous aurez remarqué, par exemple, les citoyens européens peuvent exercer tous les droits sauf la fonction publique régalienne, juré, droit de vote, hormis le droit de vote aux municipales et aux européennes. Vous avez été élu notamment par des citoyens européens, monsieur.
Donc cette distinction-là, elle est logique. Elle est légitime.
Tout le reste, c'est comment fonctionne le système de protection sociale et le système d'emploi en France. Un étranger qui est installé en France paye des impôts, cotise de la même façon qu'un Français. Et en fait, on est dans un système, c'est dit dans un certain nombre de décisions de la Cour européenne des droits de l'homme ou du Conseil depuis 1990, comme ils sont contribuables comme les autres et comme ils cotisent comme les autres, ils bénéficient des mêmes droits à la protection sociale. Et c'est la même chose pour l'emploi. S'il est légitime dans un État-nation d'exclure les étrangers des droits régaliens, il n'est pas légitime de les exclure des autres droits et emplois. Et c'est en ça où la proposition du Front National est contraire au principe républicain défini dans des décisions du Conseil constitutionnel, dans des décisions de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc est-ce que vous êtes au-dessus de ces juridictions?
Non, c'est pas que je suis au-dessus de ces juridictions, c'est que nous voulons modifier la loi. Est-ce que vous êtes en
train
de dire...
Mais vous ne pouvez pas modifier la loi. La loi, elle doit respecter la Constitution dans un État de droit, vous le savez.
Et on peut aussi modifier la Constitution.
Vous pourriez modifier la Constitution. C'est bien le problème. Vous pourriez aller à l'encontre des principes républicains.
C'est un point très important. Nous, nous souhaitons renégocier les traités internationaux, je finis là-dessus, modifier la Constitution et modifier la loi pour appliquer la priorité nationale. Mais la priorité nationale, elle a été instituée, vous le savez, par le gouvernement Herriot en 1932. C'est pas nouveau, elle a existé dans le passé, elle a
mais
été
de
ensuite
quoi vous parlez
supprimée.
De, c'est quoi la compensation nationale de 1932? C'est une compensation entre les étrangers et les Français déjà admis dans l'emploi et ceux qui ne le sont pas.
Oui, exactement.
D'accord, donc ça, c'est un système qui existe déjà.
C'était quand même un système de priorité nationale.
Aujourd'hui, c'est pas un système de priorité nationale dans le sens où vous le proposez aujourd'hui en disant on privilégie les Français sur les étrangers. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Ce qui existe déjà, c'est le fait que les personnes qui sont déjà dans le marché de l'emploi, Français et étrangers inclus, sont prioritaires par rapport à ceux qui ne le sont pas admis dans ce marché de l'emploi. Et ça existe, c'est inscrit dans le Code du travail depuis 1975.
Oui, d'accord.
Donc vous voulez soit vous proposer quelque chose qui existe déjà, soit vous proposer un principe contraire à la Constitution.
Aux citoyens français, puisque pas plus de 10% d'étrangers pouvaient être admis sur le marché du travail.
Vous confondez les systèmes.
D'ailleurs, je vais venir à un autre point très important.
Je voudrais pas vous oublier que vous êtes trois ce soir et je voudrais aussi qu'on entende de temps en temps.
Un point très rapide là-dessus.
Allez-y, rapidement.
Le Conseil d'État, puisque vous citez la jurisprudence, le Conseil d'État a reconnu par exemple que les banques, dans un arrêt en 2001, que les banques pouvaient parfaitement prendre en compte le critère de nationalité française
dans un système de scoring.
Pour accorder ou non un emprunt bancaire, un crédit.
Bon. Oui, voilà, donc, le scoring, ça montre mais on peut bien, prendre le sexe, etc., la maladie, etc. C'est des statistiques.
Y compris le critère de nationalité. Que vous soyez
pas d'accord.
Vous êtes un militant de gauche assumé et donc vous voulez que
Je suis ici un professeur de
que les étrangers, y compris d'ailleurs clandestins, bénéficient d'un certain nombre de droits comme les Français. Mais ça, c'est une question de choix politique. Mais vous pouvez pas dire, sous prétexte qu'on est pour la priorité nationale, c'est-à-dire que les Français soient traités, soient prioritaires dans notre pays, que pour autant c'est anti-républicain. Ça n'a aucun sens.
Saber Mansouri.
Je rappelle quand même pour nos auditeurs que la nation n'est pas un régime politique, c'est la République. On est bien d'accord. Donc toutes ces expressions nationales, etc. J'ai lu le rapport de défenseur des droits.
Jacques Toubon, qui a été remis le mois dernier.
Donc sur les droits fondamentaux des étrangers. Et je constate tout simplement que ces droits fondamentaux ne sont pas garantis dans plusieurs cas. Je pense qu'il faut être lucide. On n'est pas là pour écrire un programme électoral politique. Il faut être lucide et dire ceci. L'étranger ne désire pas la France. La France, l'État français, le gouvernement actuel, ne désire pas l'étranger en question. On a vu ça au moment de la vague des réfugiés syriens. Et donc, j'ai l'impression qu'on se bat avec un boxeur en carton, la préférence nationale. Mais moi, j'ai tendance à déplacer le problème. J'ai envie que cette préférence nationale, entre guillemets, s'applique plutôt dans le cadre de la communauté civique, c'est-à-dire de la communauté citoyenne, c'est-à-dire garantir cette égalité de droit à tous les citoyens français, indépendamment de leurs origines, etc. etc.
Mais vous considérez qu'elle n'est pas assurée, cette égalité, aujourd'hui ?
Une fois, je pense que, j'en viens à mon idée, je pense qu'une fois on a réglé cette question d'égalité dans le cadre de la communauté civique, je pense qu'on sera plus apaisé, plus malin aussi, je dirais, plus intelligent pour parler de l'étranger et pour parler de l'étranger, pour penser l'étranger et pour justement bien aborder cette question. Au fond, je pense on pourrait dire tout simplement, parlez-moi de l'étranger, je dirais qui vous êtes. Le problème, il est là. Donc c'est sous cette appellation, sous ce slogan préférence nationale, je pense qu'il y a des vrais problèmes. Il y a des vrais problèmes qui se posent aujourd'hui, ici même, en France.
Voilà. Alors l'idée d'avoir une discussion apaisée, c'est justement l'idée que nous essayons de tenir chaque soir dans cette émission. Et puisque vous évoquiez, Saber Mansouri, le rapport du défenseur des droits Jacques Toubon qui a été remis le mois dernier, rapport intitulé « Les droits fondamentaux des étrangers en France », je voudrais juste vous faire écouter à tous les trois un extrait de ce que disait Jacques Toubon sur Public Sénat. C'était le 9 mai dernier, dans lequel il explique que cette question justement de la préférence nationale et des discriminations entre Français et étrangers peut être en train de, dit-il, polluer le débat politique et porter atteinte à certains droits fondamentaux. Écoutez ce qu'il dit.
Cet agenda unique de l'identité fait qu'en réalité, il n'y a plus aujourd'hui qu'une chose à faire, distinguer entre nationaux et étrangers, au mépris des principes, car je rappelle qu'il ne faut jamais oublier que l'État est souverain. Et il peut faire des règles différentes, c'est vrai, quand il s'agit de l'entrée, du séjour, de l'éloignement.
Voilà, vous faites des distinctions, on est bien d'accord.
C'est très bien. Que les lois soient trop restrictives aujourd'hui, je le dénonce. Mais quand il s'agit des droits fondamentaux, des droits sociaux, des droits à la santé, des droits à l'éducation, par exemple, là, les droits sont universels et on ne peut pas distinguer entre nationaux et étrangers. Et c'est malheureusement ce qui se fait aujourd'hui.
Alors cette universalité des droits, mais c'est d'ailleurs ce que disait un petit peu tout à l'heure Serge Slama, Nicolas Bay, elle existe notamment à travers un certain nombre de textes fondamentaux, notamment au sein de la Constitution. Dans la Constitution, le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui dit par exemple ceci, je vais juste vous citer deux extraits, je ne vais pas évidemment tout vous lire. « Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. » Et puis un peu plus loin, « Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. » On voit bien que la nationalité n'est pas une condition. Non, mais ce que je veux dire, c'est que J'étais frappé tout à l'heure, peut-être que les auditeurs ne l'ont pas entendu, quand vous avez dit, bah, finalement, si la Constitution ne nous convient pas, nous la changerons. C'est-à-dire, vous la changeriez dans quel sens, la Constitution,
pour pouvoir appliquer cette préférence nationale. Vous savez, la Constitution française, elle a été changée 16 fois au cours des dernières années. Donc 24 fois, pardon. Voilà. Il est évident que le changement en soi de la Constitution française, c'est aussi quelque chose de parfaitement républicain qui se fait dans le cadre de la réunion du Congrès et l'histoire récente de la République a été marquée par des changements dans la Constitution française.
Mais ça pourrait ressembler à quoi, par exemple, justement,
ce que vous venez de dire est très important. En effet, il n'y a pas de discrimination entre les citoyens fondée sur leur origine, c'est évident. Le critère de priorité nationale, c'est le critère de la citoyenneté française. On se moque bien de savoir l'origine, le pays d'origine, la culture d'origine, ou même les options confessionnelles, bien sûr. En revanche, et le deuxième article que vous avez cité, c'est simplement le secours qu'on peut porter à des gens, ils n'ont pas la nationalité française. Mais ça, personne ne le met en cause. Les secours d'urgence, si on a quelqu'un qui est en danger de mort, personne ne le met en cause. Mais
c'est pas les secours d'urgence,
aujourd'hui, il y a du chômage. Je vous donne un exemple. L'aide médicale d'État, elle coûte près d'un milliard d'euros par an aux contribuables français. Elle permet à n'importe quel clandestin de se faire soigner gratuitement en France.
Il y a des conditions.
Vous savez très bien que c'est, y compris pour des pathologies longues et des pathologies lourdes, mais c'est pas du tout de la médecine d'urgence. Non, il n'y en a plus, bien sûr que non.
Je peux vous les citer très précisément si vous voulez, mais vous êtes en train de dire quelque chose de fou.
Alors que dans le même temps, vous avez beaucoup de Français qui n'ont plus les moyens de se soigner
convenablement. C'est pas vrai, tout ça, c'est absolument faux, c'est un slogan politique, c'est faux. Désolé, c'est totalement juridiquement faux. L'aide médicale d'État est accessible seulement après 3 mois de séjour.
Et
une condition de ressources qui est équivalente à celle pour la CMU. Donc, c'est-à-dire, un sans-papier ne bénéficie pas plus de droits qu'un Français ou un autre étranger qui s'est couvert dans le cadre de la couverture maladie universelle. Et vous venez de dire vous-même, vous avez reconnu
que
la Constitution reconnaît une universalité des droits en termes d'accès aux
soins. En matière de santé.
Pas plus de droits. Il n'a pas plus de droits. L'aide médicale d'État, c'est un panier de soins moins étendu que la couverture maladie universelle.
J'ai dit qu'il en avait autant et c'est ça qui est scandaleux.
Eh bien, c'est normal pour l'accès aux soins. Est-ce que vous laisseriez
Est-ce que vous pouvez prendre juste 10 petites secondes pour m'écouter? Je voudrais vraiment vous demander, on a quand même un petit peu de temps dans cette émission, donc si vous pouvez vous écouter les uns les autres, vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez totalement contester les propos des uns et des autres, et également faire participer notre troisième invité, mais si ça pouvait se faire les uns après les autres, ça serait beaucoup plus agréable, je pense, pour les gens qui nous écoute. Alors, Saber Mansouri, ensuite je reviens vers vous, promis Serge Lama.
Tout à l'heure, j'ai entendu cette formule, la nationalité, la citoyenneté se transmet par hérédité. J'ai envie de vous poser la question, que faites de ceux qui demandent la nationalité, la citoyenneté, parce qu'ils ont une haute opinion de ce pays et parce qu'ils sont, ils sont intégrés, mais ils sont français comme tous les autres. Et vous dites aussi qu'il n'y a pas de discrimination au sein de la communauté civique. J'ai envie de vous répondre, il suffit de regarder les bancs de l'Assemblée nationale.
Alors Nicolas Bay, peut-être juste une contre-réponse, ensuite Serge Lama.
En l'occurrence, que les choses soient claires, la représentation nationale, il y a justement des députés, des sénateurs ou même des ministres pendant ce quinquennat et même pendant le quinquennat précédent qui étaient d'origine étrangère. Bon, je pense que ça vous a pas échappé. Je crois que c'est pas du tout le sujet.
Alors Serge Lama, pour aller quand même sur le terrain juridique, puisque c'est effectivement sur ce terrain-là que vous travaillez, est-ce que vous diriez que, bon, imaginons, le Front National arrive au pouvoir et veut appliquer son programme, ce qui a priori est le cas de tous les partis qui gagnent une élection. Est-ce que ce programme serait inapplicable, pas seulement du fait des textes français, mais également des textes européens, par exemple, et qu'on a déjà un certain nombre de jurisprudences, c'est-à-dire qui démontrent que la préférence nationale ne peut pas être mise en place?
Alors, encore une fois, tout dépend du contenu de la préférence nationale. Si c'est, par exemple, exclure les sans-papiers d'un certain nombre de droits ou d'emplois, c'est déjà le cas aujourd'hui. En revanche, si c'est de réserver strictement aux nationaux ces droits et emplois en dehors de la sphère régalienne, encore une fois, j'insiste là-dessus, les citoyens ont des droits spécifiques. c'est très clairement contraire à la Constitution et vous ne pourrez pas modifier cette Constitution puisque c'est protégé par l'article 1er de notre Constitution, le préambule de cette Constitution de 58 et le préambule qui a été cité tout à l'heure de 1946. Ce sont des textes qui ne sont pas modifiables, sauf à abroger tout ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. Et dans ces textes, il est affirmé un principe d'égalité sans différence selon l'origine qui contient notamment l'origine nationale. Et donc, sauf à vraiment remettre en cause tous les principes républicains et tous les principes garantis par le Conseil constitutionnel. Et les différentes juridictions depuis, quels que soient les régimes, etc., vous pouvez pas le faire sans remettre en cause ces principes. Mais évidemment, si le Front National arrive au pouvoir, ces principes...
Vous parlez de l'article 1er, où vous dites qu'il ne faut pas faire de discrimination en fonction des origines. Mais personne ne veut cela, ici. Ce que dit le Front National et le principe de priorité nationale, c'est un principe de citoyenneté française. Voilà, donc il n'y a absolument rien de contraire à l'article 1er, et il faut simplement modifier la Constitution pour que, en effet, en matière de droits sociaux, de logement et d'emploi, eh bien, ce soit les Français qui soient prioritaires dans notre pays, comme c'est le cas d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays dans le monde, je vous le signale.
Je vais me permettre de lire un extrait de l'essentiel du programme tel qu'on peut le trouver sur le site du Front National, qui dit ceci: la priorité nationale sera appliquée à tous les Français, quelle que soit leur origine. Les entreprises se verront incitées à embaucher en priorité, à compétences égales, des personnes ayant la nationalité française. Les administrations respecteront également ce principe et la liste des emplois dits de souveraineté sera élargie. Sébère Mansouri.
Oui, mais moi j'ai envie de savoir comment... Enfin, parce qu'on parle, des étrangers. Bon, il y a les étrangers, vous savez, il y a les touristes extrêmement riches qui viennent faire leurs courses dans les boutiques Hermès et Louis Vuitton. Il y a tous les travailleurs dans le bâtiment qui sont là depuis des années, et que d'ailleurs le rapport chiffre entre 200 000 et 400 000. Que faire avec ces gens-là, sachant qu'ils ont un travail, un salaire? Est-ce qu'on sanctionne les entreprises qui les emploient? Il y a toute une communauté étudiante aussi qui vient d'Afrique ou de Maghreb qui fait ses études, tout en respectant les règles de la République française. Il y a toute cette vague de réfugiés qui a préféré partir ailleurs parce que on sait pertinemment que la France ne veut pas, je veux dire, l'État français ne veut pas, le gouvernement français ne veut pas. On a promis d'accueillir entre 20 et 30 000, je ne sais pas les chiffres actuels. J'ai tendance à dire, réglons d'abord le problème de ce pays de l'intérieur, réglons d'abord... toutes ces questions-là, avant de parler des étrangers qui n'ont plus le désir de la France. Parce que quand ils regardent la manière dont on parle d'eux, vous savez, on se réjouit des ventes d'armes d'entreprises comme Dassault, des Rafales un peu partout, en Égypte, au Qatar, dans les pays du Golfe. On fait des guerres en Syrie un peu partout. Et qu'est-ce qu'on va dire à ces gens qui échappent, qui fuient la mort? On va vous barder et rester quand même sur place. Cet argument électoral est ridicule parce que les étrangers dont on parle, ils choisissent d'aller ailleurs.
Je voudrais juste qu'on essaie aussi l'idée de cette émission. Alors je vais vous le... Non, pas vous le dire globalement, mais c'était aussi d'être un peu concret, d'essayer de comprendre finalement comment on peut comment on ne peut pas mettre en place des mesures de préférence nationale. Et je trouve qu'il y a un élément que vous avez évoqué et qui me semble intéressant, Saber Mansouri, c'est quand vous évoquez ces nombreuses personnes, notamment par exemple sur les chantiers, qui occupent peut-être des emplois qui, dans une période de crise économique, par exemple Nicolas Bay, pourraient peut-être être occupés par des Français. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi je voudrais juste vraiment comprendre, c'est-à-dire si on applique ce principe de préférence nationale, est-ce qu'on va dire à un certain nombre de personnes qui travaillent déjà, vous quittez votre travail, vous rentrez chez vous, et éventuellement on vous aide à rentrer chez vous pour que ce soit des nationaux qui occupent ces emplois-là? Comment ça va se passer? C'est-à-dire, c'est ça que j'arrive pas à comprendre.
Il y a plusieurs choses parce qu'on est parti un peu dans toutes les directions. Ouais. La question que vous avez posée, c'est la question de l'assimilation.
C'est la question que je vous pose.
On a 50 000 naturalisations par an sans qu'il y ait une assimilation réelle qui soit exigée de la part de l'État. La question que vous posez, c'est en effet de savoir si un étranger qui est en France, il a vocation à y rester durablement ou pas. Nous, ce que nous pensons, c'est qu'il n'y a pas aucune raison de renouveler automatiquement les titres de séjour. Très clairement, un étranger étranger peut très bien venir en France, travailler en France et ensuite en repartir. Mmh, voilà. Et ensuite, on a dans notre pays, il faut quand même pas l'oublier, 200 000 entrées légales par an, des dizaines de milliers de clandestins qui s'ajoutent à cela. Et on sait très bien que 95% de ceux qui entrent légalement en France avec un titre de séjour, c'est 200 000 entrées par an, eh bien 95% d'entre eux n'ont pas de contrat de travail. C'est en général, il faut bien le dire, de la main-d'œuvre pas ou peu qualifiée, qui n'a pas de perspective de trouver un emploi dans un contexte de chômage de masse.
Serge Lamar.
De quoi parle-t-on ? Sur les 200 000 entrées légales par an, on parle bien de légales, combien il y a d'étudiants étrangers ? 70 000.
60 000.
70 000. Combien il y a de réfugiés reconnus par l'OFPRA et la CNDA ? Combien ? 25 000.
Oui, mais, non, mais attendez, par contre, il y a tous les clandestins qu'on appelle réfugiés.
Combien dedans il y a
de
conjoints de français, parents d'enfants français ? Vous êtes contre le séjour des parents d'enfants français, conjoints de français ?
Non, mais c'est
20 000. Alors, on peut continuer. En fait, le travail, la part de travail, de travailleurs qui sont dans ces 200 000 par an, c'est 15 000 personnes. Et dans ces travailleurs, c'est des travailleurs hautement qualifiés parce qu'on a déjà en France un système d'opposabilité de la situation de l'emploi.
Vous soulevez le problème de la regroupement familial.
Donc il y a 15 à 20 000 personnes qui effectivement des cadres de haut niveau qui sont autorisés à travailler parce que il n'y a pas de Français ou de personnes étrangères sur le marché du travail.
Notamment des médecins,
etc.
Parce qu'on n'a pas des CLU.
Non, les médecins, c'est un autre dispositif confondé par l'ensemble, ça ne relève pas de ce système-là. Donc en réalité, ce que vous proposez, c'est des choses, soit qui existent déjà, j'insiste, il y a déjà un système d'opposabilité de la situation de l'emploi en France, soit des systèmes qu'on ne pourrait pas mettre en œuvre parce que ça serait contraire à des principes de droit international et de droit français, notamment de droit constitutionnel.
Le fait d'accorder ou non un titre de séjour, c'est l'une des fonctions fondamentales de l'État. Il est évident qu'il n'y a aucune raison d'accorder systématiquement à des gens qui n'ont pas d'emploi, qui viennent peser directement sur les comptes publics
et
sur les comptes
sociaux. Le nombre de refus de séjour chaque année en France, est-ce que vous le connaissez ?
Combien il y en a qui sont acceptés ?
Combien ? 90 000 refus de séjour par an.
Et 200 000 acceptés.
Non, 200 000 nouveaux titres de séjour, beaucoup plus.
Oui, 200 000 entrées légales.
Entrées légales,
par an.
Donc,
oui, voilà.
Dont 75 000 étudiants étrangers.
Or, on sait très bien qu'il y en a très peu qui ont la perspective de trouver un emploi. Ils vont donc directement peser sur les comptes publics et sur les comptes sociaux. Et ce dont vous ne voulez pas parler, c'est le regroupement familial. Parce que cette immigration, c'est aussi largement liée au regroupement familial.
De quoi vous parlez ?
Eh bien, c'est plusieurs dizaines de milliers.
Non, moins que ça.
Bien sûr que si.
C'est très faible, le regroupement familial.
Non, pas du tout.
Vous ne connaissez pas les chiffres.
Bien sûr que si. Mais le vrai problème, c'est de savoir si on a besoin ou de cette immigration. On n'en a pas besoin. Elle vient plomber nos comptes publics et
ce
nos comptes sociaux. On a un contexte de chômage de masse et ça coûte évidemment une fortune à la communauté nationale. C'est ça la réalité. Donc je sais que vous êtes un immigrationniste fortuné.
Non, je ne suis pas immigrationniste.
Vous voulez faire entrer des immigrés légaux, vous voulez faire aussi entrer des immigrés clandestins. Parce que la réalité, vous parliez des réfugiés de guerre, mais il y a 280 millions de personnes dans le monde qui sont dans un pays en guerre. Alors, si on prend ce critère-là pour les accueillir, eh bien, on est totalement submergé. Ça n'a évidemment aucun sens.
Vous m'avez compris. Attendez. Vous n'êtes pas dans un meeting électoral. Vous semblez évacuer les questions. Je ne vous parle pas de la cartographie de la guerre dans le monde. Je vous parle des guerres dans lesquelles la France est engagée. Je parle des guerres dans lesquelles la France pour lesquels la France fait du commerce et gagne de l'argent et vend des armes et pour lesquels son industrie est florissante. Voilà. Donc, et j'ai envie qu'on parle des étrangers qui sont déjà sur place, qui sont déjà en France. On parlait des vagues migratoires des gens qui
mais
vont venir.
Réalité, hein,
non, mais parlons.
Un million.
Mais non, mais attendez. Mais
ouais.
Attendez.
Qui arrivent en Europe.
Mais attendez. Pourquoi parler des étrangers qui sont chez eux ? Pourquoi parler des étrangers qui sont chez eux et qui vont pas venir ?
Bah si.
Pourquoi parler des
Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a dit qu'il y en a 3 millions qui vont arriver à échéance de 2017.
Non, les réfugiés syriens sont.
Mais il n'y a pas que des Syriens.
Non, mais les réfugiés de guerre sont.
Mais ce n'est pas que des réfugiés de guerre, c'est des réfugiés économiques.
Oui,
en fait, c'est des clandestins classiques.
Je vous parle des guerres dans lesquelles la France est engagée.
Il y a 6,5 millions de réfugiés reconnus par l'OHR.
Allez voir les réfugiés au Liban, en Jordanie. Il y a même en Tunisie, etc., etc. Vous savez qu'il y a à peu près 1,5 million de réfugiés libyens en Tunisie. Enfin bref. Donc arrêtez de parler des étrangers qui sont chez eux, qui ne vont pas venir.
Mais ils viennent.
Non. Ne faites pas peur.
Le commissariat aux réfugiés.
Laissez-moi finir ma phrase.
A dit qu'il y en a 1 million qui sont arrivés en 2015.
Je sais que faire peur,
c'est 70 000, contre
100
000 en Allemagne.
Peur.
La politique de relocalisation, c'est 20%.
Je sais que faire peur.
Le plan de relocalisation a été appliqué à 1%.
Non, mais
1%.
Juste,
non. Oui, le plan de relocalisation est applicable. Travaillez vos fiches.
Est-ce qu'on peut juste laisser terminer cette dernière souris, si vous voulez bien? Voilà. Merci.
Arrêtez. Mais je pense que même, il faut que toute la classe politique, d'ailleurs, arrête de parler des gens qui sont chez eux, qui ne vont pas venir. Mais concentrons-nous. Pourquoi vous évacuez des vrais problèmes qui sont là? Concentrons-nous.
Non seulement je ne les évacue pas, mais
vous avez posé la question, que faire de ces ouvriers qui travaillent dans les chantiers, dans le bâtiment, qui travaillent, qui ont des métiers déclassés, qui sont là, mais attendez, qui sont là depuis des années, qui ont un salaire et un logement, que faire de ces gens-là? Répondez directement.
Encore une fois, ou bien ils conservent leur emploi, ou bien si la communauté nationale décide de ne pas renouveler leur titre de séjour au bout de 5 ans, au bout de 10 ans...
Est-ce qu'ils veulent leur donner un titre de séjour ou pas?
Mais ils ont déjà le titre de séjour. Ah, vous parlez des clandestins, là?
Je vous parle des ouvriers
qui sont en situation régulière et qui sont étrangers.
Non, qui travaillent.
Mais qui sont en situation régulière. Mais
vous connaissez pas la réalité
des... Je connais très bien.
Non, mais il y a des ouvriers.
Puis on pourrait parler aussi du détachement des travailleurs.
Il y a des ouvriers sans papier.
Ah, qui sont sans papier.
Oui, qui sont là. Non, mais qui sont là. Les expulser?
Les expulser, ils sont sans papier, ils sont clandestins.
Est-ce que vous pensez que
ils sont entrés ou ils se sont maintenus illégalement sur le territoire national?
Est-ce que vous pensez
qu'il faut les expulser?
Est-ce que vous pensez
que
les grosses entreprises cotées en bourse de CAC 40, est-ce que vous pensez que les grosses entreprises vont laisser le Front National faire?
Ah oui. Bon, mais parce que la loi elle s'applique à tous. Et ça, c'est la différence entre ceux qui sont au pouvoir et nous. C'est qu'aujourd'hui, on a un parti socialiste et précédemment une UMP qui était à la botte de la grande finance et des grands groupes. Eh bien, nous, pour nous, la loi, elle s'appliquera uniformément à tous.
Pouvez-vous nous parler du budget du Front National, comment il est financé?
Pardon?
Le budget du Front National, notamment le parti de Marine Le Pen, il est financé comment, le micro-parti?
J'ai l'impression que vous êtes totalement hors sujet.
Bon, mais vous parlez de la grande finance. Parlons de la grande finance.
Là, c'est pas la grande finance, c'est de la finance, c'est le fonctionnement d'un parti politique. Donc, c'est vraiment.
Allez, mais est-ce que vous pourriez nous éclaircir sur ce point-là?
Alors, attendez, il nous reste 3 minutes.
Je pense pas que ça ait beaucoup d'intérêt.
Il me semble qu'on part dans un certain nombre de directions. 3 minutes. Je voudrais quand même. Il y a une question que je voulais vraiment vous poser et vous poser à vous, Nicolas Bay, parce que bon, c'est vrai que dans cette émission, on reçoit pas très souvent des représentants du Front National, et sur cette question donc de la préférence nationale, c'est peut-être la question d'ailleurs que j'aurais dû vous poser au départ, mais je voudrais essayer de comprendre, c'est-à-dire quels sont les critères qui justifient selon vous que l'on applique ces préférences nationales. Ce que je veux dire, c'est que, est-ce que c'est, vous considérez par exemple qu'il y a une pénurie, je sais pas, de ressources, en tout cas que les ressources sont limitées et que ça le justifie? Est-ce que c'est ça? Et si oui, est-ce que ça veut dire que, imaginons que la France, espérons-le, retrouve une phase de prospérité, auquel cas, toutes les mesures de préférence nationale sur l'emploi, vous les lèveriez?
Bah précisément, puisque la priorité, c'est pas l'exclusivité. Parce qu'on est dans une situation, effectivement, avec 2100 milliards de dettes publiques, qu'on a 6 millions de chômeurs et 9 millions de pauvres, ça justifie d'appliquer la priorité nationale. Si demain, on a le plein emploi, eh bien, on pourrait, évidemment, que les Français sont prioritaires pour ces emplois, et ensuite, une fois que les Français auront des emplois, eh bien, des étrangers en situation légale, installés sur le territoire national avec un titre de séjour, pourraient, à ce moment-là, bénéficier également de ces emplois. Donc, je pense qu'on a répondu très clairement depuis le début de l'émission sur cet aspect des choses. Il ne s'agit pas, pour nous, de mettre en place un système d'exclusivité. Il s'agit simplement de constater qu'aujourd'hui, la France souffre et qu'il n'y a aucune raison que des personnes qui arrivent tout récemment sur le territoire national aient les mêmes droits que les citoyens français. C'est aussi simple que ça.
Saber Mansouri, ce sera la conclusion.
Oui, mais la conclusion, c'est simple. Il faut qu'on arrête de parler des personnes qui sont arrivées récemment et des personnes qui vont arriver. Je pense que ces étrangers imaginaires ou restent chez eux ou partent ailleurs. Voilà.
Je ne sais pas dans quel monde vous vivez, mais Jean-Claude Juncker a déclaré, le président de la Commission européenne, 3 millions d'entrées en Europe d'ici 2017.
Je vis comme vous dans ce beau pays qui est la France, qui est la République.
Si vous ne voyez pas les vagues migratoires, il faut vous acheter des lunettes.
J'offre les 10 dernières secondes à Serge.
C'est un projet totalement irréaliste d'un point de vue économique et juridique. Il n'y a aucun doute. C'est-à-dire une main-d'œuvre n'est pas substituable à une autre. Ce n'est pas parce que vous allez virer, expulser, enfin, je ne sais pas comment vous avez dit, un certain nombre d'étrangers que pour autant les Français pourront occuper ces emplois, ça marche pas comme ça l'économie. Vous avez une vision simpliste du droit, une vision simpliste de l'économie, une vision simpliste de la politique.
Mais
ça marche, la démagogie.
C'est pas des arguments, ça, c'est pas solide.
Bah, bon, si vous voulez, j'argumente. Mais...
Écoutez, en tout cas, merci malgré tout d'avoir tenté et réussi à certains moments de discuter tous ensemble. Merci Nicolas Bay, Serge Slama et Saber Mansouri. Émission, vous pouvez la réécouter si par moment vous n'avez pas tout entendu sur notre site internet franceculture.fr, la page du grain à moudre. Vous pouvez la réécouter de manière indéfinie. Du Grain à Moudre, c'est une équipe avec Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Fanny Richer, Cyril Baer, Tanguy Omri, une émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son d'Aliya. Demain, c'est Mélanie Chalandon que vous retrouverez à la présentation du Grain pour une émission consacrée aux résultats du référendum britannique et à ses conséquences pour l'Union européenne.